voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre François Sureau. Ce soir, le mouvement de la littérature.
Bonjour François Sureau.
Bonjour Marie-Laure Delorme.
Après avoir parlé de votre enfance et de votre jeunesse, nous allons parler de littérature et notamment du lecteur que vous êtes pour cette troisième partie d'A Voix Nue. Avez-vous déjà passé, François Sureau, une journée sans lire ?
Ah oui, 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 absolument. La dernière fois, on parlait de l'armée, par exemple. Alors, à l'armée, on n'a pas le temps de lire. C'est le côté vraiment sympa. C'est qu'on n'a pas le temps. On fait des rencontres, d'ailleurs, extraordinaires avec des types qui ont lu dans le passé. Mais on n'a pas le... Avant de s'engager, je veux dire. C'est spécialement le cas, les gens étrangers ou les gens ont des destinées assez particulières. Mais oui, bien sûr, j'ai passé des journées sans lire. Pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment lu, vous savez, contrairement aux apparences. Pendant très longtemps, j'ai survolé. Je vous parlais dans une première émission des écrivains par eux-mêmes. Pendant très, très longtemps, je me suis contenté de l'espèce d'impression presque poétique et superficielle que pouvaient me donner les livres quand je les lisais. Vous voyez, il me suffisait de lire deux pages de Candide et j'avais l'impression d'avoir compris. Je survolais ces choses. Je voulais le goût de la littérature, son odeur, son parfum. Vous voyez, ça n'est que progressivement que je suis... Et d'ailleurs, les seules choses que j'arrivais à lire véritablement avec passion, c'était les livres faciles. Agatha Christie, Maigret, Arsène Lupin, Sherlock Holmes, et je vais jusqu'à Robinson Crusoe, qui a été longtemps pour moi vraiment un livre absolument essentiel. J'ai eu énormément de mal à lire le reste, je dois être resté un peu enfant, à lire le reste qui, par certains côtés, m'emmerdait. Je n'ai jamais eu la passion érudite de Balzac, de... Le seul livre que j'ai commencé à lire vraiment sérieusement, vraiment à fond, c'était La Recherche du Temps Perdu. Parce que quand je l'ai lu, j'ai découvert une sorte de consonance avec ce que je ressentais, que je n'aurais jamais pu exprimer. Je crois que c'est une expérience que la plupart des lecteurs de Proust ont faite, hein, que je n'aurais jamais pu exprimer et que j'étais saisi de voir exprimer avec cette précision. Voilà. Et c'est au fond avec Proust, très tard, très tard, je veux dire vers 20 ans, que je suis vraiment rentré totalement dans la littérature. Avant, la littérature que je préférais, c'était Monte Cristo et les Trois Mousquetaires. Et d'ailleurs, depuis, la littérature que je préfère, c'est encore Monte Cristo et les Trois Mousquetaires. Je relis Monte Cristo chaque année l'été et je suis absolument fasciné par ça. C'est une forme de littérature qui est adaptée, je ne parle pas de la poésie, quelque chose de totalement différent. Mais c'est une forme de littérature qui est adaptée à une manière peut-être un peu enfantine, un peu neuneux, de voir la vie, vous voyez. Donc je suis pas ce qu'on appelle un érudit. J'ai laissé tomber l'éducation sentimentale à la 200e page, je l'ai jamais reprise. J'ai adoré Bouvard et Pécuchet, enfin ça à cause du côté comique, vous voyez. Mais je cherche dans la littérature un mouvement, vous voyez. Un mouvement, et je ne le trouve pas toujours et pas tout le temps. Et quand je ne le trouve pas, je préfère ne pas lire.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement, vous êtes un lecteur de poésie. Apollinaire, c'est votre dieu vivant.
Ah oui, Apollinaire. Alors, c'est bon, Apollinaire, c'est... D'abord, je l'aime parce que, vous voyez, quand même, voilà, je l'aime pour... À la fin, tu es là, de ce monde ancien, tout de même. C'est quand même... Puis, vous vous souvenez... J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Non, il y a Apollinaire. Il y a peut-être deux sortes de poésie, une poésie qui a à voir avec la chanson douce, et puis une poésie qui a à voir avec des choses plus profondes, plus structurées, plus métaphysiques, comme Rimbaud. J'aime énormément Rimbaud par ailleurs, si vous voulez, mais je suis ébloui par la grâce d'Apollinaire. Pour moi, la grâce, c'est quelque chose de très... Quoi, la grâce qui se pose sur certaines personnes, qui se pose, et la grâce s'est posée sur Apollinaire. Et vraiment, c'est une grâce qui me touche de manière absolument infinie. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui me plaît énormément chez lui, dans quoi je me reconnais. Je pense que on aime beaucoup les auteurs par la manière dont on se reconnaît. C'est la dialectique, pour employer un grand mot, entre la tradition et la modernité chez Apollinaire. Il y a un côté, j'aime bien le passé, Merlin l'Enchanteur, les Nyx du Rhin, tout ça. Et puis il y a un autre passé par lequel le monde moderne est quand même assez extraordinaire, vous voyez. Et au fond, Si on voulait le dire en termes politiques, moi j'ai toujours été éloigné à la fois de la réaction, parce que je suis pas du tout un utopiste du passé, mais également du progressisme, parce que je ne crois pas que ce qui advient soit nécessairement bien. En revanche, ce que j'aime chez Apollinaire, c'est cette manière de vivre dans une espèce de passé mystérieux qu'il recrée, qui était dû probablement d'ailleurs aux circonstances très particulières de ses origines, de sa naissance adultérine, etc. Donc il naît, il vient d'un passé mystérieux qu'il recrée. Et en même temps, il y a une espèce de goût, d'appétit du monde moderne, bergère autour Eiffel, de troupeau des ponts belles ce matin. Une espèce d'appétit du monde moderne et un désir que je comprends, que je partage entièrement, de ne jamais cesser de trouver ce qu'il y a de bien à l'intérieur de ce qui advient. À l'intérieur de ce qui advient maintenant. Et ce mélange des deux, cet équilibre, est quelque chose pour moi d'infiniment précieux. Et puis il y a aussi autre chose chez Apollinaire, qui est sa recherche de l'harmonie. Je crois que j'ai longtemps été, je pense que je serai jusqu'à la fin de ma vie, quelqu'un de disharmonique. Et il y a chez Apollinaire une manière gracieuse, parfois mélancolique d'ailleurs, de rechercher l'harmonie entre des pulsions absolument différentes de son être. On le voit dans les hésitations entre chez lui, entre, au fond, la nostalgie de son enfance catholique. Tu ne sais pas ce qui te retient d'entrer dans une église, de t'y confesser ce matin, dans zone. Y a une tension permanente entre ça et puis toute autre chose, l'adhésion à la guerre par exemple, qui est quelque chose de très très surprenant chez lui, ou entre l'incroyable pureté fraternelle du sentiment et l'intensité de ses livres pornographiques à base de candolisme. Y a chez Apollinaire, cher comme une sorte d'Apollinaire, comme pour moi comme une sorte de gros funambule au masque d'empereur romain qui est suspendu entre les abîmes, mais ça me touche infiniment.
Ce qui est plus étonnant, c'est que vous aimez l'intransigeant Pascal. Vous êtes un lecteur de Pascal.
Ah oui, 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 oui. Mais Pascal n'est pas... Pascal est intransigeant par amour. Il est intransigeant par amour. Je suis sensible à l'amour, en fait. Je crois que le moment est venu de l'avouer. Je suis sensible à l'amour. L'amour des hommes, l'amour des femmes, l'amour des soldats, l'amour de la vie. Et plus je vieillis, plus je suis sensible à l'amour. Ce qui me frappe d'abord chez Pascal, c'est l'amour. C'est quand même incroyable. Sa pensée est complètement contradictoire. Voilà un homme qui croit à la prédestination absolue et qui écrit un traité apologétique pour amener les hommes à être sauvés. Mais à quoi ça sert, puisque de toute façon, ils sont damnés d'avance. La clé de ce mystère réside uniquement dans l'amour. Borges, qui écrit des bêtises à chaque fois qu'il veut parler de quelqu'un qui croit véritablement à quelque chose, qui n'était pas son cas, il en écrit sur Chesterton, il en écrit sur Kipling, et il en écrit également sur Pascal, explique que Pascal est au fond habité par un désir purement apologétique. Mais pas du tout. Pascal est habité par l'amour. L'une de ses dernières phrases, c'est comment se fait-il que moi qui ai eu toujours un si grand amour des pauvres, je n'ai jamais rien fait pour eux. Et le résultat, c'est qu'il quitte sa maison, il la laisse à trois pauvres malheureux, il va mourir chez sa sœur à côté de Saint-Étienne-du-Mont. Le secret de Pascal est dans l'amour. C'est d'ailleurs ce qu'il rend gai. Molière est triste, c'est ce que dit très très bien Mauriac. L'homme de la prédestination, de la misère de l'homme sans Dieu, l'homme des abîmes était gai. Alors que l'homme qui prétend guérir les vices par le rire pleure dans la coulisse avant d'y mourir. Voilà, pour moi, Pascal, c'est l'amour. C'est une forme absolument brûlante, intransigeante de l'amour. Il y a un texte magnifique de lui où il explique qu'il avait sûrement beaucoup aimé les dames, où il explique qu'il se retient maintenant parce qu'il n'y a rien chez lui, il sait qu'il n'y a rien chez lui qui puisse contenter l'amour d'une femme. Ce qui est merveilleux, parce que ça veut dire au fond que seul l'amour de Dieu est capable de remplir un cœur, mais c'est encore l'amour qui fonde sa démarche. La scène de la fin de sa vie, où il sort de la messe et il voit une mendiante, enfin qui est en fait une prostituée en réalité, qui est très jeune et très belle, et il la recueille, il l'emmène chez les prêtres de Saint-Sulpice, alors que pour des raisons purement théologiques, il est très opposé aux prêtres de Saint-Sulpice, et il la sauve en réalité, il la sauve de la rue, et il la décrit magnifiquement, il ne la revoit jamais. Pascal est essentiellement un homme de l'amour, ce n'est pas un homme de la dureté.
Vous êtes un lecteur, vous êtes un écrivain, vous êtes un avocat. Impossible aujourd'hui de parler de culture sans parler du débat entre l'homme et l'œuvre, l'art et la morale, de Roman Polanski à Peter Handke. Avez-vous une idée, une position là-dessus, sur cet éternel débat récurrent ?
Enfin, oui, enfin, je m'en tamponne absolument le coquillard. Non, mais je veux dire, Je demande qu'une œuvre soit jugée. Je suis un adepte du contre Sainte-Beuve. Je demande qu'une œuvre soit jugée pour elle-même.
Peter Handke, vous le lisez, point barre.
Oui, je le lis assez peu d'ailleurs, parce que je le connais mal. Mais enfin, en tout cas, quelques circonstances de sa vie que ce soit. Si vous voulez, j'ai, comme tout le monde, je crois, été pris de vomissement à la lecture de Bagatelle pour un massacre. Voilà. Ben, ça m'empêche pas, quand j'ouvre Mort à crédit ou D'un château l'autre, d'être absolument ébloui, effaré par le génie, la musique, la danse, l'amour même qu'il y a chez Céline, l'amour étrange de l'humanité qu'il y a chez lui. Je veux dire, on va pas... Je veux dire, non, de même que Green écrit ça très bien. Je pense profondément que Proust a raison. L'homme qui écrit n'est pas le même. L'homme qui écrit se venge de... L'homme qui écrit, l'homme qui fait des films, l'homme qui... etc. Il essaye de se rédimer, il essaye de se racheter, il essaye de se venger. Et on s'en fout complètement. Le résultat, c'est cette œuvre qui, parce qu'elle est fondée sur des choses quelquefois médiocres, misérables ou même criminelles, peut aider d'autres hommes à trouver un chemin de salut. Et en réalité, dans l'abus de morale de notre époque, je vois simplement le signe que nous ne croyons plus que l'œuvre en elle-même puisse être rédemptrice, alors qu'elle peut l'être. Alors qu'elle peut l'être. Et ça me paraît extrêmement blâmable, en tout cas, de l'oublier.
Parlant d'hommes, vous étiez ami avec Jean d'Ormesson, un ami proche. Quelle sorte d'amitié était-ce ?
Ah, c'était une amitié très, très étonnante, d'abord parce qu'elle n'avait absolument pas à voir avec l'âge. On était vraiment de bons camarades, on se voyait tout le temps, on se voyait plusieurs fois par semaine. Et j'y pense encore maintenant avec une grande émotion, parce qu'il y avait chez lui une chose que ses apparitions médiatiques, notamment de la fin de sa vie, ont absolument fait oublier. Enfin bon, je pense que les gens qui le connaissaient bien le savent, ça. Il y avait chez lui deux choses. Une liberté totale, une absence de préjugés absolument complète, en particulier de préjugés sociaux, de préjugés nationaux, de préjugés économiques. J'ai jamais connu un homme qui soit... Enfin, il me paraissait être le fils naturel du prince de ligne, quoi, vous voyez. Il n'avait aucun préjugé, d'aucune sorte. Et puis, un sentiment... c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de la couleur de la vie, quoi. Je pense que nous voyons en partie, pas totalement, mais en partie, nous voyons la vie avec les mêmes couleurs. Et il s'attachait dans l'amitié à ce point-là, à ce point auquel on pouvait se rencontrer. Et qu'il exprimait de temps en temps par une phrase, quand on lui citait un vers, d'un coup on voyait prendre un air absolument rêveur, très, très, très différent de l'air toujours sur le coup qu'il prenait à la télévision, vous voyez. Et où il disait simplement « Ah mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça ». Et dans ce « c'est tout à fait ça », il y avait à la fois tout l'émerveillement et toute la douleur du monde. C'est une race d'hommes dont je crains quelquefois que le moule ne soit cassé.
Jean d'Ormesson était une icône médiatique. Est-ce que la littérature a à voir avec le silence et la solitude ?
Elle se fabrique là-dedans, mais ensuite il y a tant de chemins, c'est sur ça que je trouve assez merveilleux avec elle, il y a tant de chemins d'accès à la vraie littérature, la solitude et le silence, ou Bernanos qui écrit dans les cafés, ou Proust qui lui écrit dans sa chambre capitonnée de Liège, ceux qui vont, ceux qui s'en vont, ceux qui veulent en parler, ceux qui ne veulent pas en parler, ceux qui veulent se taire... Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, et de l'autre côté, Breton n'arrêtant pas de tirer des coups de revolver au café Le Cyrano, vous voyez. Il y a tant de voies d'accès à ça, ça me paraît tellement merveilleux, de voir tellement de chemins particuliers pris pour rejoindre une espèce d'île mystérieuse où on a l'impression que parfois les écrivains se rassemblent.
Êtes-vous un lecteur de vos contemporains ?
Non, pas sérieusement. Je le regrette, d'ailleurs, il y a des auteurs que j'ai beaucoup aimés, mais je ne le suis pas sérieusement.
Pierre Michon, Jean Echenoz, Marine Diaye.
Non. Les auteurs qui m'ont frappé ces dernières années, c'est assez classique d'ailleurs, hein, c'est quelques étrangers comme Ondaatje, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. C'est Jean Rollin, que je tiens pour un très grand écrivain. Cholodenko, qui est injustement oublié, et Houellebecq, qui me semble dire quelque chose de très intéressant du monde, dont je ne partage absolument pas les... J'ai l'impression, en tout cas, de ne pas partager le sentiment du monde, ou la sensation du monde, mais qui me paraît dire quelque chose du monde.
Emmanuel Macron, dont on vous dit proche, est un lecteur de Houellebecq. Il dit aussi aimer la littérature. Vous le croyez ?
C'est difficile de ne pas croire quelqu'un qui vous dit qu'il aime la littérature. Après, vous pouvez diverger sur les goûts ou sur ce qu'on y cherche. Mais c'est une chose que j'ai remarqué avec lui comme avec d'autres. D'ailleurs, il m'est assez difficile de voir ce que les gens cherchent dans la littérature. Quand on en fait soi-même, ce qu'on y cherche est une manière très particulière d'exercer la vie. J'aime la littérature comme quelqu'un qui à la fois la lit et qui en fait. Ça colore complètement ma manière d'aimer la littérature. Le fait qu'en même temps, je suis quelqu'un qui en fait, avec plus ou moins de succès, et succès esthétique, je ne parle pas de succès public, et donc qui trouve dans la littérature, lue et faite, un moyen très particulier d'exercer la vie. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pourrais me rencontrer avec d'Ormesson ou avec d'autres écrivains que je connais et qui en font aussi. Et donc les gens qui ne font que la lire, sans que ça ait, à mes yeux, quoi que ce soit de péjoratif quand même, parce que il vaut mieux qu'il y ait plus de lecteurs que d'écrivains tout de même. Les gens qui ne font que la lire, en fond, c'est très difficile de savoir ce qu'ils y cherchent. Un enseignement, une ivresse, une manière de décrypter le monde, je n'en sais rien. Mais je suspecte pas du tout la sincérité de l'amour de la littérature d'Emmanuel Macron, par exemple. Pas du tout. Je ne sais pas toujours à quoi elle correspond, mais pas plus que pour n'importe quel autre lecteur, pur lecteur de livres.
D'une manière générale, on a tort de remettre toujours en cause la parole des hommes politiques, de les taxer d'insincérité.
Oui. Globalement, s'il fallait prendre une position binaire dans ce débat, évidemment, on a tort, parce que les taxer d'insincérité révèlent simplement notre incurable naïveté sur ce qu'est l'action politique. L'action politique consiste à faire rentrer des passions populaires, les unes estimables, les autres non, à l'intérieur d'une boîte civilisée pour faire que tout le monde puisse continuer à vivre ensemble de manière raisonnable. Pour le faire, il faut ruser en permanence avec les discours, avec le réel, avec les intérêts, et présenter une parole politique qui permette un fonctionnement équilibré et stable, et qui, d'une certaine manière, sauve ce que Pascal appelait l'assentiment public aux institutions. Vous ne pouvez pas faire ça si vous dites en toute sincérité en permanence ce qui vous passe par la tête. En effet, je préfère que les hommes publics, à certains égards, soient insincères. Parce que la civilisation, Freud l'a bien montré quand même, consiste à bien des égards à tenir des discours insincères. Que penserait-on d'un ministre de la Santé qui dirait les patients en veulent toujours trop, les infirmières m'emmerdent. Peut-être serait-il sincère en le disant, mais il aurait tort. Et d'une certaine manière, il aurait tort même si c'est vrai. Parce que la politique consiste à présenter une forme d'adhésion au monde qui permette un fonctionnement civilisé, normal, non violent. Et ceci ne va pas avec le côté tripal. Il y a, dans cette société d'ailleurs assez étrangement amoureuse des formes, qui est la nôtre, une préférence pour la sincérité, le tripal, le transparent et le non médiatisé, qui me paraît barbare au sens propre du terme. Exactement comme quand les juges se mettent à faire de la morale au lieu de faire du droit. Ça me paraît absolument barbare. Donc, quand on taxe les hommes politiques d'insincérité, je trouve que nous devrions questionner l'intelligence de l'imputation criminelle qu'on leur fait. Et nous ne la questionnons pas, nous, en tant que citoyens, assez souvent. Maintenant, que les hommes politiques racontent n'importe quoi pour se faire élire, c'est une évidence, et c'est à nous d'inventer ou de modifier les institutions de telle sorte qu'il y ait suffisamment de contrepoids. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y en a pas assez dans la Ve République finissante, mais c'est à nous de leur inventer des contrepoids. Mais il ne sert à rien de les taxer d'insincérité générale.
François Mitterrand aimait la littérature. Il était un grand lecteur. C'est important pour un homme politique de lire, ou en fait, ça n'a aucune importance.
Ça dépend. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit important pour l'action. On peut être un très très bon homme politique sans jamais avoir rien lu, donc en étant tout à fait inculte. Je pense que c'est important pour les Français, dans la mesure où les Français, reconnaissent au président de la République une espèce de fonction d'incarnation. Et nous sommes heureusement un pays dans lequel comptent ces valeurs humanistes, si je puis dire, dans lequel la littérature a malgré tout une grande part, même si c'est une littérature souvent violente, souvent déviante. Enfin, notre littérature, c'est aussi bien Breton et Céline que les écrivains du juste milieu, ou Alain, ou que sais-je encore. Donc nous avons une littérature qui est complexe, qui est brutale, qui est violente, qui est à certains égards révolutionnaire. Et au fond, la figure du prince écrivain, si je puis dire, ou du prince littéraire, est quelque chose qui compte pour nous parce qu'elle nous permet de trouver une forme d'unité. Au fond, c'est quoi la France ? Enfin, je veux dire, je sais bien que les démographes sérieux disent que, en fait, c'est un pays qui est moins multiple et divers qu'on le dit, et qu'il est plutôt plus semblable à lui-même sur le plan démographique et ethnographique au fil du temps. Il n'en reste pas moins que, on voit bien que ça n'est pas l'Allemagne et que ça n'est pas non plus l'Angleterre, que nous ne sommes ni l'une île, ni une population assez éthiquement homogène. On voit bien ça. C'est quoi, nous, notre truc ? C'est l'État, au fond, et c'est la langue, c'est-à-dire la littérature. C'est ce qui nous constitue. Et donc, le président doit avoir le sens de l'État et le président doit aimer les lettres. Et j'aime bien ça, au fond. Hein. C'est peut-être un peu daté chez moi, mais j'aime bien ça. L'autre jour, je travaillais sur Huysmans et j'ai été ébloui. J'ai eu un moment de nostalgie absolument incroyable quand je vois la médiocrité du personnel politique contemporain. Je suis tombé sur un article publié en 1910 par Léon Blum sur l'Oblat. L'Oblat est le livre où Huysmans raconte la liturgie bénédictine à Ligugé. Enfin, bon, un machin quand même très cathotechnique, quoi. L'intelligence de Blum est quelque chose d'incroyable. En fait, Blum, et c'est tout à fait à contre-courant, puisque Blum n'était pas le moins du monde catholique, Blum, en fait, reproche à Huysmans, avec une subtilité incroyable, de n'être pas assez catholique. C'est-à-dire de penser que la liturgie importe plus que le service des pauvres. Et tresse un éloge absolument incroyable de ce Moyen-Âge, où les écrivains n'écrivaient pas leur nom sur des livres, mais au fond faisaient des vitraux en restant anonymes. Et en expliquant que pour lui, c'était ça, l'âme de la France. Ce texte de Blum est absolument incroyable. Alors on est content quand on est dirigé par des hommes politiques comme ça, ou comme François Mitterrand, oui.
Vous connaissez par cœur des morceaux entiers de littérature, des poèmes. C'est important, le par cœur, hein.
Ah oui, 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 oui. D'abord, c'est important parce que je marche beaucoup, et quand je marche, j'aime bien me réciter des choses. Enfin, c'est peut-être la poule et l'œuf, hein. Je les apprends peut-être aussi par cœur parce que j'ai décidé de marcher beaucoup. Donc ça marche dans les deux sens. Mais oui, je trouve ça très important, pour moi en tout cas. J'en ferai pas une idée générale, mais je trouve que ça donne à la vie, ça permet de la voir en plusieurs, ça permet de ne pas cesser de travailler. Giacometti disait, je ne vois que lorsque je travaille. J'aime beaucoup cette formule. Je ne vois, c'est un peintre, un sculpteur, je ne vois que lorsque je travaille. Et en fait, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je me promène, quand je me récite des choses dans la rue, etc., eh bien, curieusement, c'est là où je vois le monde extérieur. Mais non seulement le fait d'être dans ma tête à me réciter des choses me permet de voir le monde extérieur. Les maisons, les gens, les personnes, etc. Ça crée entre l'intérieur et l'extérieur une espèce de courant de circulation incroyable qui tout d'un coup fait que la vie me paraît plus précieuse, plus belle, plus étonnante, plus digne d'être vécue. Donc pour moi, en tout cas, c'est très important.
On a parlé d'Apollinaire, de Pascal, de Proust, mais brièvement, est-ce qu'il y a un passage de La Recherche que vous aimez particulièrement ?
Il y a un passage de La Recherche que j'aime particulièrement, mais enfin, j'aime tous les passages de La Recherche, évidemment. Il y a des passages que j'aime beaucoup. Il y a le passage sur la déception amoureuse. Il a rendez-vous avec Madame de Stermaria. Et il se promet de grandes choses de ce rendez-vous avec Madame de Stermaria, qui, entre parenthèses, doit être un rendez-vous assez physique. Hein, parce que ça se passe dans un cabinet particulier à l'île du Bois, et puis il rentre chez lui et il reçoit simplement un télégramme qui est un contretemps m'empêche de dîner avec vous ce soir à l'île du Bois. J'en suis désolé, je m'en faisais une joie, je vous écris plus longtemps de Stermaria, signé Madame de Stermaria. Et là, il trouve le télégramme, et c'est toute la déception de l'amour évanoui, de l'occasion perdue, une déception physique aussi probablement. Et il se met à pleurer sur les tapis non décloués du salon, avec de la poussière qui lui rentre dans le nez. C'est là où Robert de Saint-Loup arrive. Ce passage est un des passages que j'aime énormément, le passage où Swann annonce sa mort à la duchesse de Guermantes et où le duc de Guermantes ne veut pas l'entendre. « Allons, Swann, vous vous portez comme un charme, vous vous enterrerez tous. » Enfin, un passage absolument aigu, de manière incroyable, sur la condition humaine. Il y a des milliers de passages que j'aime. Il y en a un que j'aime énormément à cause d'un homme qui m'a formé, un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Camille Bergeau. Camille Bergeau était mon professeur de lettres en première chez les Jésuites. Et c'était un normalien de la promotion de Nizan, qui avait été longtemps conseiller culturel d'Atatürk. Un homme de milieu très modeste, il était fils de paysan pauvre du centre de la France, il est devenu normalien, agrégé, inspecteur général de l'éducation nationale, un personnage absolument incroyable. Et il nous faisait son cours de français consistait à onduler sur l'estrade. Et je me souviens de deux de ses ondulations. La première, c'est, il citait Pascal, c'est lui qui m'a fait aimer Pascal. Il disait, voyez, La fin de la comédie est, je ne saurais plus citer exactement, quelque belle qu'ait été la comédie et tout le reste, on jette une pelletée de terre sur la tête et on voit là pour jamais. Souvenez-vous que le français est cette langue où on emploie le mot jamais pour désigner le mot toujours. Là, tout d'un coup, c'était l'entrée dans le monde de la littérature. Puis ensuite, il ondulait également sur l'estrade, un vieux monsieur très bien habillé et tout. Il ondulait et il récitait La recherche du temps perdu. Et toujours viendrait comme un flot de nouvelles princesses de Guermantes, ou plutôt non. Une seule princesse de Guermantes victorieuse de la mort, le nom seul refermant sur celle qui sombre de temps à autre sa toujours pareille placidité immémoriale. Il aurait pu raturer, messieurs, il aurait pu raturer, il y avait des hommes à l'époque chez les jésuites, il aurait pu raturer, messieurs, il aurait pu raturer, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou plutôt non? Eh bien tout Proust est là-dedans, dans l'écoulement du temps. Une seule princesse de Guermantes victorieuse de la mort, ou plutôt non? Ou plutôt non, messieurs, souvenez-vous-en. Voilà.
La littérature est-elle essentielle ou est-elle un luxe?
En général, elle est... Je ne pense pas qu'elle soit... C'est question d'une extrême profondeur, parce qu'au fond, y a-t-il de la littérature au paradis? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a de la musique. Peut-être même qu'on y lit des bandes dessinées, de temps en temps, quand l'éternité nous emmerde, parce que c'est long, surtout pour la fin, comme disait Woody Allen. Mais est-ce qu'il y a de la littérature? Je ne pense pas. Je veux dire par là que la littérature a pour moi à voir avec ce qui ne va pas. Même lorsqu'on donne à ce qui ne va pas une coloration que je suis naturellement porté à lui donner, de gaieté, de création, de mouvement, etc. Elle a à voir avec ce qui ne va pas. Sous ce rapport, elle est essentielle, mais elle est essentielle parce qu'elle comble un manque. Le jour où ce manque sera comblé, il n'y aura plus de littérature. C'est ce qu'exprime Claudel quand il traduit un psaume, et il a cette phrase magnifique « Parce que je n'ai pas connu la littérature, j'entrerai dans les puissances du Seigneur ».
Merci François Sureau, à demain.
Et demain, la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec François Sureau. À voix nue. Réalisation Marie Placet. Prise de son Stéphane Beaufis. Attaché de production Daphné Abgral. Coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.